Comme tous les jours, c'est avec le journal complet qu'on commence. Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec une grève mondiale et pas banale.
Que font les dirigeants de la planète pour sauver le climat? C'est la question que s'apprête à poser des millions de jeunes demain en grève de l'école. Emmanuel Macron lui tente de donner ses réponses aujourd'hui à la tribune du sommet de l'ONU pour le climat au Kenya. Le président français mis en cause par des ONG en France. Les quatre de l'affaire du siècle ont déposé plainte contre l'État français. L'histoire s'écrit au jour le jour au Royaume-Uni avec un troisième vote du Parlement sur le Brexit et avec cet ancien militaire britannique poursuivi pour le Bloody Sunday, plus de 40 ans après la tuerie en Irlande du Nord. Le Venezuela sort peu à peu de l'obscurité, l'électricité revient, le gouvernement décrète la reprise des activités en plein chaos. Et puis comment écoutez-vous la musique? En numérique, le streaming dépasse pour la première fois dans les ventes les disques, CD et vinyles. Chantons sous la pluie, même refrain pour la météo. Demain, le point complet à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde, Amélie, nous sommes au Rwanda ce soir grâce à Benoît Colomba, la question qu'on essaiera de poser à nouveau est de savoir si la France a fait toute la lumière sur son rôle avant le génocide et aussi pendant. Benoît Colomba a des interviews exclusives à vous faire écouter, à vous expliquer aussi. Il sera là pour vous en parler. C'est une enquête en collaboration avec Mediapart. Nous sommes aussi entre la Jordanie et la Syrie ce soir où l'on observe un timide, très timide retour de certains Syriens vers leur pays. 19h20, le téléphone sonne. Retour en Algérie ce soir. On est à la veille de vendredi, donc d'une nouvelle grande manifestation. C'est important parce que ce sera la première du vendredi depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a renoncé à un cinquième mandat. Le scepticisme des Algériens, on l'a bien entendu, ils le diront dans la rue, à Paris aussi d'ailleurs, et ce sera dimanche. Appelez-nous pour en parler, donnez vos témoignages et vos impressions. 01 45 24 7000. Faire la grève donc pour le climat.
Des millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens, d'étudiants un peu partout dans le monde ont décidé de ne pas aller en cours demain. La grève de l'école, mouvement lancé en Suède par la jeune Greta Thunberg et suivi aujourd'hui sur toute la planète. En France, le mouvement commence à prendre de l'ampleur. 200 manifestations sont prévues demain. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Amélie.
Alors le ministre Jean-Michel Blanquer a tenté de contenir la grève en proposant des débats dans les classes demain après-midi, mais a priori, jeunes et enseignants se retrouveront davantage dans la rue.
Oui, pour les jeunes qui organisent cette grève, pas question de céder à la pression du ministère ou de se détourner des vrais enjeux de cette journée qui est mondiale et qui dépasse le système scolaire. Claire Renaud est étudiante en philosophie à la Sorbonne.
Depuis des mois, notre grève est prévue et on appelle plutôt les lycéens et les étudiants à venir marcher avec nous et à venir débattre entre eux en dehors du cadre de l'éducation nationale que l'on dénonce comme une éducation croissanciste et qui n'informe pas assez sur le réchauffement climatique. Une éducation qui apprend dans les sciences économiques les théories de la croissance et qui ne propose pas de modèle alternatif qui permettrait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre véritablement.
Et ces étudiants estiment que les premiers responsables du réchauffement sont les grandes multinationales. Ils envisagent demain matin des actions de désobéissance civile, blocage d'entreprises par exemple, sans dire laquelle. Puis le défilé sera émaillé d'actions surprises, prévient Léna Lazare, étudiante en physique.
Non, la manif suffit pas, ça c'est sûr. On en a marre d'être dans des villes bétonnées, et ben partons en mode guérilla verte et allons planter des choses partout. On en a marre de voir des publicités dans la rue, ben décrochons-les, mettons des publicités détournées à la place. C'est moins radical que d'aller bloquer un axe routier ou un siège d'entreprise, mais je pense que c'est aussi important et je pense que ça pourra prendre de l'ampleur et devenir quelque chose vraiment d'intéressant notre mouvement de grève.
Vous l'entendez, hein, ces lycéens et ces étudiants très motivés prévoient déjà d'autres vendredis de grève pour le climat, mais pas forcément des marches à chaque fois. Certains envisagent d'autres modes d'action plus radicaux.
Merci beaucoup Célia Kiré, spécialiste environnement. Un devoir d'action, on l'entendait, donc rappelé par la jeunesse, rappelé aussi aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et pourtant, l'État français fait l'objet d'une plainte depuis ce matin de 4 organisations réunies pour la pétition L'Affaire du siècle, 2 millions de signataires. Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot viennent de déposer un recours contre la France pour inaction climatique. Ça n'empêche pas donc le président Macron de se poser en champion mondial du climat à Nairobi, au Kenya, où il assiste au sommet de l'ONU. L'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais plus de 60% de sa population souffre des conséquences du réchauffement de la planète. Alors, quelle solution, quel financement pour le continent? Cyril Sauvageau est notre envoyé spécial au One Planet Summit au Kenya.
Nous avons des problèmes africains qu'il faut régler avec des solutions africaines.
Des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Comme le dit la maire de Dakar, l'une des intervenantes de ce sommet, la priorité est aujourd'hui de soutenir l'émergence d'initiatives locales et concrètes face au changement climatique. C'est aussi le message d'Emmanuel Macron, venu défendre à Nairobi sa vision multilatérale, celle qu'il martèle depuis la signature de l'accord de Paris.
Le défi que l'Afrique nous lance, c'est de dire collectivement, est-ce que pour apporter l'énergie, la lumière dans tous les villages d'Afrique, il faut répliquer le modèle qu'on a développé en Europe, aux États-Unis ou en Asie il y a 20, 30 ou 40 ans? La réponse est non. Et donc tous ceux qui expliquent qu'il faut faire des formidables centrales à charbon vous mentent et sont en train de vous conduire vers le pire.
Et la France espère bien tirer son épingle du jeu dans cette région d'Afrique de l'Est où les entreprises chinoises sont omniprésentes. Plusieurs contrats liés à l'énergie durable et à l'environnement ont été signés pendant cette visite au Kenya, notamment la construction d'une centrale solaire. Un projet de train urbain pour désengorger la capitale Nairobi est également à l'étude. Nairobi, Cyril Sauvageau, France Inter.
L'État français mobilisé, le ministre François de Rugy dépêché à Brest aujourd'hui l'assure également, mobilisé pour tenter d'éviter la catastrophe écologique au large de la Bretagne. Après le naufrage du cargo italien Le Grande America, deux nappes d'hydrocarbures ont été repérées en mer.
Un naufrage lent et douloureux ce soir encore à Londres.
Celui de Theresa May, la chef du gouvernement, qui essuie vote négatif sur vote négatif. Le Parlement, après avoir rejeté son traité de sortie de l'Union européenne avant-hier, après avoir rejeté l'option d'une sortie sans accord hier, va voter une troisième fois ce soir pour ou contre un report du Brexit, pour l'instant fixé au 29 mars et dans deux semaines. Et Donald Trump s'en mêle. Ce matin, dans un tweet, le président américain s'est dit prêt à négocier un accord de libre-échange avec les Britanniques juste après le divorce. Il a toujours été en faveur d'un Brexit dur, dans la lignée de son combat contre le multilatéralisme et pour les relations bilatérales. Et pendant que l'avenir du Royaume-Uni s'écrit à Londres, son passé se rappelle brusquement à lui aujourd'hui. 47 ans après le Bloody Sunday, la justice nord-irlandaise annonce des poursuites contre un ancien militaire britannique. Le Bloody Sunday, le dimanche sanglant, c'est ce 30 janvier 1972, pendant le conflit entre les partisans de la réunification de l'Irlande catholique et les défenseurs du maintien dans la couronne britannique protestant. Ce jour-là, pendant une manifestation pacifique, 13 militants catholiques sont tués à Derry par un régiment de parachutistes britanniques. 17 anciens soldats britanniques étaient dans le viseur de la justice. Aujourd'hui, 16 ne sont pas inquiétés. Un seul, un vétéran, est poursuivi, d'où la déception des familles de victimes malgré une décision historique. C'est la correspondance à Dublin de Julien Lagache.
C'est le visage marqué que les proches des victimes du Bloody Sunday sont sortis de leur rencontre ce matin avec le procureur britannique à Londonderry. Il leur a annoncé directement la décision du ministère public des poursuites contre un vétéran désigné simplement par le nom de soldat F. Les éléments à charge contre les 16 autres anciens soldats n'étaient pas suffisants pour obtenir des condamnations, a précisé le procureur. Applaudis par une foule d'anonymes venus afficher leur solidarité, les proches des victimes ont fait part de leurs sentiments mitigés. C'est une grande déception, expliquait John Kelly, dont le frère Michael a été tué à l'âge de 17 ans ce 30 janvier de 1972. Mais il a souligné que cette nouvelle étape judiciaire constituait quand même une victoire après un demi-siècle de combat pour faire reconnaître la responsabilité de l'armée. Aucune date n'a encore été arrêtée pour le procès du soldat F qui devrait se tenir à Belfast et qui marquera sans doute une première importante dans l'histoire tourmentée du conflit nord-irlandais qui aura duré 30 ans et fait 3500 morts. Dublin, Julien Lagache, France Inter.
Les boîtes noires du crash en Éthiopie viennent d'arriver en France. Elles vont être analysées par le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse français, pour tenter de savoir pourquoi le Boeing 737 MAX de l'Ethiopian Airlines s'est écrasé peu après son décollage d'Addis Abeba dimanche dernier. Le Venezuela sort du noir, mais pas du chaos. Officiellement, l'électricité a été totalement rétablie dans le pays. Dans la réalité, le courant reste intermittent dans plusieurs états. En tout cas, aujourd'hui, les activités reprenaient dans les administrations, les écoles et les industries. C'est le reportage de notre correspondant à Caracas, Benjamin Delis.
Dans la capitale, la vie reprend doucement, notamment grâce à la réouverture du métro. Une réouverture partielle, toute une section est encore bloquée. À la station de Chacaito, Espinosa Yurimar guide les usagers vers des bus gratuits mis en place par le gouvernement.
Ils assurent le trajet là où le métro est arrêté. Le système devrait reprendre parce que le courant est stable, on n'a plus de problème d'électricité. Mais la coupure a endommagé certains générateurs qu'il faut remplacer pour que le métro se relance totalement.
La file d'attente est longue, mais elle avance vite car les bus se succèdent. Témoin d'une reprise difficile qui affecte tous les secteurs. Après près d'une semaine de paralysie, les queues sont légion dans toute la ville, devant les commerces, les pharmacies ou encore les banques. Marie attend depuis une heure pour retirer un peu d'argent. Elle reste positive et dit ne pas avoir peur d'un nouveau dysfonctionnement comme cette coupure.
C'est sûr qu'il y a un risque, mais maintenant on sait qu'on doit prévoir des réserves au cas où. Et même sans être préparé, on a bien survécu. Avec la crise, le Vénézuélien est devenu résistant. Il faut aller de l'avant, on n'a pas le choix.
Trop content de retrouver une vie un tant soit peu normale, les Vénézuéliens retrouvent le sourire, quitte à oublier l'état critique de l'économie et l'avenir plus que jamais incertain du pays. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Il est 18h10 sur France Inter. Amélie, on évoquait en début de journal la mobilisation de certains enseignants pour le climat. Leurs syndicats se font aussi entendre à propos des évaluations.
Les tests que certains professeurs ont refusé de faire passer à leurs élèves en CP ou en CE1 par exemple. Le ministère a adressé un courrier aux directeurs académiques et aux recteurs pour recadrer les récalcitrants. C'est une faute professionnelle, écrivait le directeur des ressources humaines du ministère. Cela a sérieusement irrité les syndicats à l'image de Francette Popineau du SNUIPP, le premier syndicat dans le primaire.
Quand on est soupçonné de fautes professionnelles, on est passible de sanctions qui peuvent aller de l'avertissement au blâme, voire des sanctions supérieures qui peuvent jouer sur l'avancement. Donc la réponse est totalement démesurée. Il y a une perte de sang-froid du ministère sur ces questions. Il faut au contraire entendre ce qui se dit du terrain. Pourquoi le ministre n'a pas réussi à convaincre sur ces évaluations alors que les enseignants évaluent et alors que les enseignants sont favorables à une évaluation du système? Donc la sanction ne fera que mettre les enseignants et le ministère dos à dos, et ça sera contraire évidemment à l'intérêt des élèves. On n'est pas sur une majorité de collègues, mais on sait que lorsqu'il va y avoir des enseignants qui vont être peut-être convoqués, on sait qu'on aura tout un bataillon d'enseignants derrière, parce que nombreux sont ceux, et ils sont majoritaires, sont ceux qui aujourd'hui pensent que ces évaluations ne servent à rien, sauf à la communication ministérielle, sauf peut-être à mettre en concurrence les écoles, mais ils n'en voient pas l'intérêt pédagogique. Donc il y aura du monde derrière les enseignants qui, eux, sont allés au bout.
Francette Popineau du SNUIPP au micro de Sonia Princé. Un grand oral ce soir pour les têtes d'affiche des deux partis favoris aux prochaines élections européennes en France. Marine Le Pen retrouve le plateau de l'émission politique de France 2 pilotée par Léa Salamé. La patronne du RN débattra avec Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, pressentie pour mener la liste de la République en marche. L'Europe, terriblement d'actualité, donc à l'honneur à partir de ce soir à la porte de Versailles, au salon du livre, salon Livre Paris. Inauguré ce soir, pour la première fois, ce n'est pas un pays mais un continent qui est mis en avant. Et le salon ouvre ses portes alors que les ventes de livres reculent. L'an dernier, ce fut même la plus forte baisse depuis 10 ans, peut-être la faute de ces écrans qui remplacent nos bouquins papier. Et puis la musique aussi se dématérialise. Et là aussi, c'est une toute première en France. Le streaming, l'écoute des morceaux en ligne, a dépassé les ventes de disques physiques. C'est des vinyles. Jacqueline Petros, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Alors ce sont les chiffres publiés aujourd'hui par le SNEP, le principal syndicat des producteurs, où désormais la musique s'écoute davantage, donc en version numérique.
Oui, et pour la première fois, donc le streaming représente plus de la moitié des ventes de musique et fait un bond de 26%, ce qui montre irrémédiablement que les habitudes d'écoute ont changé, et pas seulement chez les plus jeunes, puisque 30% des streamers ont plus de 50 ans. Consommer de la musique en ligne, même sur des sites payants, devient un réflexe pour 5,5 millions d'abonnés, ce qui laisse une marge de progression donc importante. En revanche, les téléchargements sont en recul et les CD accusent une baisse de 15%, un chiffre accentué selon le syndicat des éditeurs et producteurs par les manifestations des Gilets jaunes, puisque les mois de novembre et décembre représentent quand même un tiers des ventes annuelles. Alors les CD sont cependant boostés par Johnny Hallyday, son album posthume Mon pays c'est l'amour et l'ensemble de son répertoire se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce qui ne se dément pas non plus, c'est le retour du vinyle qui quintuple ses ventes en 5 ans. Mais la bonne santé du streaming cache la forêt du problème de la rémunération des auteurs et interprètes. Les plateformes sont les grandes bénéficiaires. Un changement en vue peut-être avec la nouvelle directive sur le droit d'auteur examinée à Bruxelles à la fin du mois. Enfin, les musiques urbaines s'exportent bien, avec en numéro 1, et c'est une dédicace personnelle pour Amélie, Aya Nakamura.
Ouais, je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous, y'a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale.
Allô, allô, allô. Voilà,
c'est Jacqueline Pétrose qui chante. La musique est bonne, merci Jacqueline Pétrose. Vous connaissez Aya Nakamura?
Mais oui, enfin arrêtez maintenant. Je ne suis pas du tout dans la catégorie que Jacqueline Pétrose citait à l'instant. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Vous n'y êtes pas encore.
J'ai 28 ans.
Exactement.
Amélie Perrier, ne revenez pas dans Sous les radars finalement.